écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Aujourd'hui, on fait le grand écart avec l'industrie de la mode. On s'est demandé quel est le juste prix quand des lunettes de soleil à 500 euros coûtent moins de 20 euros à produire.
Mais d'abord, le procureur fédéral Frédéric Vanleu nous a accordé une longue interview dans laquelle il revient sur le Qatargate et sur le procès des attentats de Bruxelles.
Nous sommes le mardi 6 juin, je m'appelle Sandrine Puissant.
Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Les dossiers ne manquent pas sur le bureau du procureur fédéral. L'enquête sur l'ingérence au sein du Parlement européen continue et au procès des attentats de Bruxelles, on approche des derniers débats.
Le tout alors que le manque de magistrats devient criant. C'est dans ce contexte que Louis Collard et Joël Matriche du pôle enquête ont rencontré Frédéric Vanleu. L'interview est à lire dans le journal et sur notre site. Louis, chef adjoint du pôle enquête, est passé en studio pour nous en raconter les meilleurs moments.
Bonjour Louis.
Bonjour Pierre.
Une question de contexte pour commencer. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher Frédéric Vanleu maintenant?
L'enquête sur le Qatargate est en cours depuis début décembre. Elle refait parler d'elle notamment parce que la plupart des suspects ont été libérés ces derniers jours, ces dernières semaines, et que des questions se posent autour de ça. Par ailleurs, concomitamment à l'entretien qu'on a fait, Eva Kaili est sortie dans deux médias européens et elle adresse pas mal de griefs contre cette enquête. On avait envie d'entendre l'avis du ministère public sur toutes ces questions.
Et justement, par rapport à ce fameux dossier, vous le disiez, il y a quelques-uns des prévenus qui ont été libérés et donc vous lui avez demandé si l'affaire ne se dégonflait pas un peu.
Oui, parce que c'est ce qu'on a lu ci et là, une affaire qui fait pchit, une affaire qui se dégonfle parce que tout le monde ou presque est libéré. Il dément totalement ça et il explique, ça lui permet de recadrer le fait que la fin d'une détention préventive, y compris sous bracelet électronique, ne signifie rien en fait pour le fond du dossier. Ça n'a aucun lien avec l'avancée de l'enquête. C'est simplement les personnes sont détenues préventivement pour des raisons objectives et légales et pour le bien de l'enquête, entre guillemets.
Par rapport à Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, vous l'avez dit, elle est sortie dans plusieurs médias européens. Une interview qui a été publiée après la réalisation de votre interview avec Frédéric Vanleu. Donc vous n'avez pas pu aborder ces questions-là. Il s'est quand même prononcé sur ce qui avait déjà été dit sur les conditions de détention d'Eva Kaili.
Oui, mais suite à la publication de deux entretiens dans Libération et dans El Mundo ce week-end, on a reposer la question au procureur fédéral juste avant de publier notre entretien. Il s'exprime pas sur le fond des griefs qu'elle fait. En revanche, il dément, parce que ça, on avait posé la question, les reproches avaient déjà été faits. Il dément tout acharnement contre cette personne inculpée aujourd'hui, donc ça, c'est évidemment, ça va pas être une surprise, mais il explique en quoi ce n'est pas de l'acharnement que de détenir préventivement cette personne, même pendant plusieurs mois. Il revient aussi, il dément aussi le fait qu'elle ne pouvait pas accéder à son bébé de 2 ans lorsqu'elle était détenue à Rennes, et il explique là-dessus que c'est parce qu'elle avait des demandes différentes, en fait, de certains détenus qui n'ont pas été acceptées par l'administration pénitentiaire, qu'elle adresse ses griefs aujourd'hui, mais elle n'a pas été traitée différemment qu'une autre détenue du pays.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de gens parmi les forces de police travaillent sur ce dossier? Et c'est le corollaire, est-ce qu'on sait plus ou moins quand on pourrait voir cette enquête se clôturer?
Oui, donc ça, le procureur Vanleu nous l'annonce à Joël Matriche et moi-même. Donc, il y a une quinzaine d'enquêteurs qui travaillent sur ce dossier. C'est peut-être difficile à comparer pour nos auditeurs, mais c'est beaucoup pour la police judiciaire fédérale, d'autant qu'on parle d'enquêteurs financiers, donc a priori spécialisés, qui travaillent sur ce dossier. Une quinzaine d'enquêteurs, et le parquet fédéral espère boucler l'instruction, et uniquement l'instruction, évidemment, on parle pas du procès encore, pour la fin de cette année.
Autre actualité judiciaire, le procès des attentats de Bruxelles. Quel regard est-ce que Frédéric Vanleu jette sur les débats tels qu'ils se sont tenus jusqu'ici?
Alors, il jette un regard plutôt positif sur le déroulé de ce procès jusque maintenant. Quand on l'interroge sur les couacs ou les ratés, en particulier du début du procès, vous vous souvenez avec cette histoire des box des accusés qu'il a fallu démonter et remonter différemment, toute la polémique autour des fouilles des accusés, des procédures dans d'autres tribunaux sur ces questions-là, enfin voilà, toutes les polémiques qui ont émaillé le procès. Lui, Frédéric Van Leu, estime que ce ne sont pas des ratés, c'est juste l'expression d'une démocratie qui fonctionne bien, où les droits individuels sont respectés pour tout le monde, y compris pour des terroristes présumés accusés des pires choses.
Et toujours en matière de terrorisme, Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, déclarait il y a quelques jours qu'il fallait de nouveau être attentif à une menace terroriste islamiste exogène, donc ça veut dire qu'il viendrait de groupes à l'extérieur du pays. C'est aussi une menace que Frédéric Van Leu prend en compte pour la Belgique.
Alors, il nous explique qu'ils sont très attentifs à ça. Il rappelle que sur le terrorisme, le parquet fédéral a, pas plus tard que ces toutes dernières semaines, lancé plusieurs vagues d'arrestations et de perquisitions. Donc, il reste, au pluriel, tous les services de sécurité du pays, en vérité, pas seulement le parquet fédéral, attentifs à cette question-là. Mais, par rapport à la déclaration de Gérald Darmanin, la Belgique est encore aujourd'hui plus inquiète par rapport au terrorisme qui viendrait de l'intérieur. Donc pas des commandos qui seraient projetés de pays étrangers comme la Syrie ou des pays africains où l'État islamique ou Al-Qaïda sont présents, mais de personnes qui se radicalisent, de Belges ou de personnes qui vivent déjà sur le territoire belge qui se radicaliseraient chez nous. Et ils sont inquiets plus particulièrement de la jeunesse des personnes qu'ils ont arrêtées dernièrement, comme s'il y avait, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi, comme s'il y avait une nouvelle génération de personnes radicalisées. Mais il y a aussi une inquiétude par rapport à des mouvements complotistes ou d'extrême droite qui se radicalisent aussi dans la foulée de la crise sanitaire qu'on a connue.
Pour terminer, vous avez déjà beaucoup écrit, on a aussi fait des podcasts ensemble à propos du manque de moyens, du manque de personnel parfois dans les institutions judiciaires. Vous avez posé la question à Frédéric Van Leu, il a l'impression d'avoir assez de bras pour travailler avec lui.
Ah non, il rappelle que notamment au niveau de la police judiciaire fédérale, ils l'ont dit, ils l'ont rappelé, ils l'ont crié sur tous les toits ces derniers mois. Il y a toujours un grand manque de moyens policiers pour mener ces dossiers sur le terrain concrètement, de faire les auditions, de faire les perquisitions, de faire les confrontations, de chercher dans des dossiers. Et alors sur le manque de magistrats, on l'interrogeait nous avec Joël plus particulièrement sur la situation du parquet de Bruxelles. Et oui, il y a une crise aiguë au parquet de Bruxelles, notamment par un manque de magistrats pour mener ces dossiers. Il rappelle que c'est le cas aussi à Anvers, autre grande ville. Donc oui, on est dans cette situation où il manque à la fois de magistrats dans différents endroits, dans différents parquets du procureur du roi. Il manque aussi des policiers pour mener ces dossiers. Et tout ça fait que le parquet fédéral n'est pas sur une île en Belgique, dans le monde judiciaire belge, et subit aussi les contre-coups de tous ces manques.
Merci beaucoup Louis.
Merci Pierre.
Grand angle.
Vous avez peut-être ouvert votre placard ce matin en vous demandant ce que vous alliez bien mettre, une question futile qui est pourtant liée à l'avenir de la planète.
L'industrie textile produit 80 milliards de vêtements par an. L'empreinte carbone de la mode jetable est catastrophique. À l'autre extrême, les grandes marques de luxe sont impayables pour une qualité pas forcément garantie. Trop chère, la mode est scandaleuse, pas assez. Elle est dangereuse. Quel est son juste prix? On en parle avec notre spécialiste de la mode, Julie Yon. Bonjour Julie.
Bonjour Sandrine.
Alors début mai, Shein, le géant chinois qui vend en ligne plein de vêtements à très petit prix, ouvrait les portes d'un magasin éphémère à Paris pour seulement quelques jours, 4 jours. Là, il y avait une file de gens qui avouent que oui, ils avaient manifesté pour le climat et que oui, il y a une incohérence, mais que non, ils n'ont pas les moyens de s'acheter du Balenciaga. Un t-shirt Shein, c'est 5 à 10 euros. Un t-shirt de marque de luxe, c'est entre 500, peut-être 1000 euros. 100 fois plus, c'est une différence qui est raisonnable.
Voilà, c'est là-dessus vraiment qu'on s'interroge. C'est très schizophrénique et c'est très culpabilisant, notamment pour la jeune génération. Vous avez cité les gens qui attendaient devant chez Shein. Ce sont plutôt des jeunes, évidemment, parce qu'ils sont des prix incroyables. Il y a une grande rapidité de production. Ça change tout le temps. À la fois, c'est une génération concernée par le climat et l'avenir de la planète, et à la fois, une génération qui achète beaucoup. Alors, il n'y a pas que qui achète beaucoup sur Shein. C'est de l'ultra fast fashion. Donc, on est passé un degré au-dessus en Belgique, mais au niveau européen plus largement, on est en train de plancher sur des résolutions pour essayer d'empêcher en Europe d'acheter par exemple des t-shirts, comme vous avez dit, à aussi bas prix. Donc en fait, voilà, on se dit quoi ? Est-ce que du coup, je suis obligée d'acheter des trucs hyper chers ? Des Balenciaga qui produisent des t-shirts, ok, ils sont en coton, ok, ils sont fabriqués au Portugal, mais 100 fois plus cher, donc de 500 à 950 si vous allez voir sur les sites de marques comme celle-là. Est-ce que c'est pas un tout petit peu exagéré?
Pour prendre un exemple, produire un sac Louis Vuitton qui sera vendu parfois jusqu'à 20 000 euros, ça coûte quoi?
Produire un sac Louis Vuitton, si on est un fabricant, ben ça coûte entre 200 et 500 euros. Ça dépend un petit peu des sacs. Mais clairement, ceux qui coûtent 500 euros se vendront dans les 20 000 euros. Il y a des sacs Louis Vuitton qui partent jusqu'à 40 000 euros. Bon, là, on se dit, c'est une grande marque. Et dans notre inconscient, on se dit cher égale bonne qualité. C'est pas toujours le cas. Prenez un sac Louis Vuitton, la toile enduite, la célèbre toile à monogramme, en fait c'est une couche de coton enduite de PVC. PVC qui est du plastique. Ça tient très 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 longtemps, mais c'est du plastique. On peut comparer ici, je vous dis tout de suite, j'ai un sac d'aucune de ces deux marques, je n'ai d'action ni d'un côté ni de l'autre, mais Hermès qui est aussi une grande maison, qui se fait aussi des marges énormes, etc. Au moins, on peut justifier par un côté très artisanal, des pots de cuir très chers, etc. Et tout. Bon, ça ne se justifie pas totalement non plus. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu indécent, qui n'est pas totalement justifié par les coûts de production. Louis Vuitton appartient au groupe LVMH, et donc LVMH, on voit bien, se fait des marges énormes, donc de 800 à 1200%. Ce sont les pourcentages les plus hauts de l'industrie.
Pourquoi alors les grandes marques de luxe sont si chères, si ce n'est pas la qualité qui justifie le prix?
Il y a quand même la confection, la fabrication, le fait que ce soit fait en Europe pour la plupart, mais surtout, par exemple, les toutes grandes marques de luxe, là où elles mettent l'argent, qui vont leur faire leur blé, c'est dans la désirabilité en fait de leurs produits.
Leurs sacs ont une aura, ce sont des produits de luxe, donc ils peuvent se permettre de les vendre en se faisant des marges de 800 à 1200%, c'est ça?
Jusqu'à 2000% parfois, exactement. En visant très très bien des publics cibles très particuliers, en créant des besoins émotionnels, parce que c'est pas un vrai besoin d'avoir un sac de luxe, c'est pas un besoin vital, c'est un besoin émotionnel, donc ils travaillent là-dessus. En s'associant par exemple à des stars, évidemment, à des stars du sport ou autre. En novembre dernier, il y a une campagne, les campagnes Vuitton sont toujours incroyables. C'est quand même la marque qui a réussi à embaucher Mikhail Gorbatchev pour vendre ses malles, quoi. Donc c'est quand même dingue, ex-président soviétique, quoi, pour les plus jeunes. Là, en novembre dernier, ils avaient réuni sur une photo Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui disputaient une partie d'échecs. L'échiquier était posé sur 2-3 malles empilées. Ils disaient waouh. Ben d'abord, il faut savoir qu'ils n'étaient pas du tout à deux sur cette photo. Donc la photo a été prise chacun séparément. Donc ça casse déjà un peu le mythe. C'était 2 millions d'euros pour Ronaldo, 1,7 pour Messi, un tout petit peu moins. Tout l'argent, généralement dans les grandes marques comme ça, va dans le marketing, la communication, les frais de vente. Et ce qui est fou, c'est que plus les prix augmentent, plus la demande augmente en fait. Donc le public met parfois beaucoup, beaucoup d'argent juste pour un logo ou pour un nom en fait, en souciant peu de ce qu'il y a derrière.
C'est pas forcément la qualité, mais plutôt la désirabilité des produits qui justifient le prix. C'est aussi la rareté, parce qu'ils sont fabriqués en quantité limitée, finalement.
Exactement, ils sont fabriqués en quantité limitée, généralement, donc en édition limitée, et qui contrôlent très très fort les endroits où elles sont vendues, toujours pour avoir cette aura, comme vous disiez, cette désirabilité. Et ça fonctionne, il y a 80 milliards de vêtements qui sont produits par an. Il y a une personne sur six qui travaille dans le secteur, donc c'est vraiment énorme. Le numéro un mondial du luxe, donc LVMH, qui possède Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Guerlain, a eu un chiffre d'affaires en 2022 de 79,2 milliards d'euros. Bon, c'est gigantesque.
Ce sont des chiffres qui font tourner la tête, en fait.
Ce sont des chiffres qui font tourner la tête. Bernard Arnault, le boss de LVMH, il est plus riche qu'Elon Musk, voilà, aujourd'hui.
Une autre explication de ces chiffres, par exemple, pour le marché des lunettes de soleil, c'est le manque de concurrence. Ce sont des situations de monopole qui permettent de fixer les prix et de s'assurer les profits.
Exactement. Alors, pour vous parler de ça, je voudrais citer une femme qui est assez incroyable. Une jeune spécialiste de la finance, une Française qui s'appelle Inès Archani. Elle a créé un site qui s'appelle Les Investisseuses et qui est un site d'éducation financière à destination des femmes. Elle a des vidéos sur TikTok, je vous conseille de la suivre, et sur Instagram.
Chanel, pourquoi vos lunettes de soleil, elles sont aussi cher? Tout simplement parce que c'est la marque que toutes les femmes veulent porter, et en plus designée par Coco Chanel. Bonjour, comment ça vous coûte de faire des lunettes de soleil Chanel? Bonjour les investisseuses, 10 euros pour la monture et 5 euros pour les verres. On fait aussi Ray-Ban, Prada, Tiffany & Co et plein d'autres, juste le prix est différent. Et l'entreprise qui détient toutes les marques fait à peu près 800% de marge. Quoi? Les gens payent 500 balles pour des lunettes qui coûtent 20 balles? Et une seule entreprise détient toutes ces marques? Oui, c'est l'entreprise Luxottica. Ils contrôlent 80% des marques dans une industrie qui vaut 28 milliards de dollars. C'est aussi pour ça que leur action a augmenté de 250% depuis 2008. Les profits sont hyper constants et en plus on aura toujours besoin de lunettes de soleil.
Il y a une entreprise italienne qui détient 80% des lunettes solaires. Toutes les marques, Ray-Ban, Prada, Armani, Bulgari, Ralph Lauren, Michael Kors, Persol, et c'est Luxottica. Et donc Luxottica se fait des marges de folie. C'est la même chose pour les parfums, le maquillage, les crèmes de soins. C'est la même chose parce qu'en fait un parfum, retournons 50 ans en arrière ou même plus, les grandes maisons, Dior, Chanel, ça avait des nez. Elles produisaient leurs parfums de A à Z. Christian Dior à l'époque s'inspirait des roses du jardin de sa maman à Granville en Normandie. Aujourd'hui, tout est partagé, délocalisé. Les maisons ne touchent plus, elles délèguent à, par exemple, Procter & Gamble, qui possède Pampers, Ariel, etc. Les parfums, ça vient d'eux. Il n'y a pas de raison qu'un parfum Chanel coûte si cher, puisqu'en fait, il est produit par une entreprise qui produit des tas d'autres choses, d'autres senteurs. Encore une fois, désirabilité, non sur la bouteille. Voilà, le sillage que vous laissez en passant dans la rue, bah, vous pouvez dire, bah, c'est numéro 5, voilà.
Comment on peut faire alors si on veut s'habiller à des prix raisonnables, sans polluer, sans salir la planète et sans remplir les poches des actionnaires de ces grandes marques de luxe ?
La première chose à faire, c'est de réfléchir d'abord, de ne pas faire trop d'achats compulsifs. Dans le vêtement, s'intéresser à la matière avant tout. Tout ce qui est plastique, le PVC, le bannir, tout ce qui est polyester, ultra polluant. Une empreinte carbone pour un t-shirt en polyester est 2,5 fois celle d'un t-shirt en coton, qui déjà est très polluant. C'est aussi des piscines olympiques d'eau. Vous prenez un jeans, en fait c'est catastrophique. Un jeans, par exemple, pour le délaver, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Le cuir, on vous dira, oh, le cuir c'est noble, etc. Ben voilà, il faut penser aussi au bien-être animal, il faut aussi penser pareil, la tannerie, l'usage de l'eau est incroyable. Même la viscose c'est fait à partir d'arbres, en fait ça vient vraiment de plantes, mais vous avez quand même un traitement qui est polluant aussi. Puis l'eau aussi est vraiment nécessaire pour ce genre de choses. Donc,
quelles sont les matières à privilégier ?
Il faut privilégier des matières les moins traitées, les moins plastiques possibles, mais je dirais la seconde main. Il faut quand même penser, si vous avez vraiment envie d'une marque, visez quand même les sites de seconde main ou les friperies, etc. Sachant qu'aussi le transport par camion, si vous allez sur Vinted, ben, le CO2, c'est pas terrible non plus.
Un t-shirt à 5€, finalement, ça peut pas être fait dans des bonnes conditions, ni humaines, ni écologiques.
Ça, c'est impossible, en fait, parce que vous avez, pour reprendre l'exemple de la marque Shein, il y a une forte présomption que ces t-shirts soient aussi réalisés dans des ateliers employant des prisonniers chinois à la chaîne. On n'a pas de visibilité, on n'a pas de prise sur quelque chose qui est fabriqué aussi loin et aussi rapidement. Je répète, en fait, les collections changent toutes les semaines, et ça c'est pas très sain, ni éthique au niveau de la planète, ni éthique au niveau humain. On se souvient qu'il y avait eu des catastrophes au Bangladesh avec des immeubles qui s'effondraient sur des ateliers complètement délétères. Mais évidemment, savoir qu'il y a une personne qui s'est usée les yeux sur une machine à coudre sous des néons pendant des heures et des heures, c'est pas très chouette. On n'est pas très fiers de le porter non plus. C'est Vivienne Westwood, la créatrice anglaise qui est morte il y a quelques mois, punk, vraiment une anti-fourrure, qui était vraiment très très avant-gardiste, qui disait « le moins c'est le mieux, less is the best » ou quelque chose comme ça. Donc en avoir un peu moins, mais un peu mieux, un peu de meilleure qualité.
Vous avez parlé à l'une des créatrices de la marque belge Mozart, Coralie Barbier, qu'elle a lancée avec Stromae. Cette marque, par exemple, est très transparente sur ses coûts de fabrication. C'est une piste trop rare, trop rarement utilisée aujourd'hui.
Exactement, ça c'est hyper rare et vraiment bienvenu. Il y en a de plus en plus. Et je dois avouer que même H&M commence à faire ça aussi, à mettre la photo de la personne qui a fait ce t-shirt. Un peu du greenwashing. Mais ici, exactement, c'est une marque... c'est pas des prix de fast fashion. Par exemple, il y a un t-shirt, voilà, prenons l'exemple du t-shirt numéro 25 sur la dernière capsule qui vient de sortir ici la semaine dernière. C'est un t-shirt qui coûte 56€. Enfin, waouh, 56€, un t-shirt quand même, il n'est pas exceptionnel. Bon, vous allez voir sur le site. On voit qu'il est fait au Portugal, donc pas au bout du monde, que la plupart des vêtements de cette collection sont en matière bio ou en matière recyclée. Il y a un petit schéma. Par exemple, le détail du vrai prix de ce produit, qui, il faut le dire, n'inclut pas les coûts opérationnels et de marketing, donc à nouveau la pub et ces choses-là. Vous voyez que pour 56€, il y a à peu près 2€ pour le développement du produit, 7€ pour les matériaux, je ne vous fais pas après la virgule. Hein. La manufacture, donc la fabrication, 7€. Label et packaging, les petits emballages, 0,7€. Et 0,7€ le transport aussi, ce qui nous fait un total de 18€. plus les coûts opérationnels, le marketing, etc. Ben en fait, c'est très transparent. On voit qu'en effet, Mozart se met un peu de sous dans la poche, c'est logique. On a l'impression de, ben, qu'on fait attention aux consommateurs. On ne nous prend pas trop pour des idiots et des idiotes.
Une autre piste de solution, c'est de réfléchir au coût par utilisation. Qu'est-ce que c'est ?
Vous achetez quelque chose donc de cher et a priori durable, quelque chose qui ne va pas s'user tout de suite. Mettons, vous achetez une paire de chaussures à 100 euros. C'est pas la fin du monde encore, il y a beaucoup plus cher que ça. Mais vous prévoyez que vous allez la porter au moins 50 fois. 110 par 50, ça veut dire qu'elle va vous revenir à 2 euros de coût par utilisation. Vous avez un achat impulsif, vous allez chez Primark ou H&M ou Chine et vous achetez des sandales à 20 euros. Vous les portez deux fois et puis elles explosent sur le bitume, elles fondent, elles cassent ou quoi. Mais ça vous aura coûté 10 euros. Faites le calcul, d'un côté 2 euros 50 fois utilisation, de l'autre côté 2 utilisations et au final 10 euros. Ça vous aura coûté beaucoup plus cher en fait. J'ai une amie, c'est amusant, elle m'a parlé du coup par compliment. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une très jolie petite blouse à pois.
Merci.
Le mari a un petit pois blanc, entre saisons, très très chouette. Elle dit, quand j'achète un truc un peu chéro, après 4-5 compliments, je dis, ok, c'est bon, il est remboursé. Peut-être penser à ça aussi.
Merci Julie.
Au revoir Sandrine, merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À demain.